Bonjour et bienvenue au cercle de lecture de Confluence. Nous allons aujourd'hui nous occuper d'un livre de Bohumil Hrabal qui s'intitule « Une trop bruyante solitude ». Quelques mots sur Confluence. Confluence est une association qui, tout au long de l'année, organise des manifestations principalement littéraires. Le point culminant étant le festival Lettres d'automne qui se déroule chaque année la deuxième quinzaine de novembre. Cette année, l'invité principal est Laurent Mauvignier, un auteur dont nous avons lu deux livres au cercle de lecture, le livre qui s'intitule « Des hommes » et le livre qui s'intitule « Autour du monde ». Autour de cette table, aujourd'hui, pour parler du livre de Bohumil Hrabal, se trouve Monique.
Bonjour.
Jeannette.
Bonjour.
Françoise.
Bonjour.
Et donc moi, Jean. Alors, ce livre est un petit livre en apparence, et pour moi c'est un grand livre, même s'il est assez mince. Notre auteur, Bohumil Hrabal, est un Tchèque qui est né en 1914, qui est mort en 1997 et qui, tout au long de sa vie, après avoir fait des études de droit, a occupé différents métiers s'est mêlé à au monde des travailleurs dans différents domaines. Il ne faut pas se tromper avec cet auteur. Il joue au pilier de brasserie, au soulographe, débraillé, mal élevé, mais en réalité, c'est quelqu'un de très cultivé, de très fin, et quelqu'un qui a une réflexion très très profonde sur la vie des hommes, de la société. Et il faut dire que, et pour les Tchèques, la vie au XXe siècle n'a pas été particulièrement facile. Il y a eu la brève période de la République tchèque entre les deux guerres, mais à partir de 1938, il y a eu d'abord l'occupation nazie et après la guerre, l'instauration d'un régime de type soviétique. Donc il a fallu supporter toutes ces situations extrêmement difficiles et on va en reparler. Les Tchèques réagissent en ayant bien sûr le sentiment tragique de la vie, mais ils réagissent aussi avec l'humour noir, le rire malgré tout. Ce livre, donc « Une trop bruyante solitude », est un des livres écrits par Hrabal, il en a écrit beaucoup, et il a été publié en France. Il a d'abord été diffusé dans l'ex-Tchécoslovaquie, en édition un peu clandestine, en 1976. Et il a été ensuite traduit en français, et il est publié dans une jolie petite édition, que j'ai sous les yeux, l'édition Pavillon Poche, chez Robert Laffont. Et cette édition date de d'abord, il y a eu une première diffusion en 1983, et puis cette édition donc de 2007. Alors le livre raconte l'histoire d'un personnage qui parle à la première personne au cours de 8 chapitres et qui débute presque tous avec une sorte de leitmotiv. Voilà 35 ans que je travaille dans le vieux papier. Je vais peut-être lire donc la première page qui donne un avant-goût de l'essentiel du livre, et puis donc on pourra discuter du contenu très riche de ce petit et grand livre. Donc voilà comment ça commence. Voilà 35 ans que je travaille dans le vieux papier, et c'est toute ma love story. Voilà 35 ans que je presse des livres et du vieux papier, 35 ans que lentement je m'encrasse de lettres, si bien que je ressemble aux encyclopédies dont pendant tout ce temps j'ai bien comprimé 3 tonnes. 3 tonnes. Je suis une cruche pleine d'eau vive et d'eau morte. Je n'ai qu'à me baisser un peu pour qu'un flot de belles pensées se mette à couler autour de moi. Instruit malgré moi, je ne sais même pas distinguer les idées qui sont miennes de celles que j'ai lues. C'est ainsi que pendant ces 35 ans, je me suis branché au monde qui m'entoure. Car moi, lorsque je lis, je ne lis pas vraiment. Je ramasse du bec une belle phrase et je la suce comme un bonbon. Je la sirote comme un petit verre de liqueur, jusqu'à ce que l'idée se dissolve en moi comme l'alcool. Donc on pourrait continuer, mais il me semble que là, le ton est donné déjà. Donc notre personnage, Monsieur Anta, travaille dans une commande, une presse qui pilonne des livres. Pas seulement des livres d'ailleurs, on va en reparler. Des papiers.
Oui.
Donc Françoise, tu veux peut-être préciser les choses.
Je vais présenter le personnage et son travail. Donc cela fait 35 ans que Anta, c'est son nom, presse des livres et des vieux papiers. Il y a des sacs de ciment, des papiers de boucherie notamment. Au début, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il était révolté par la destruction des livres. Puis, il le dit, il s'est blindé en quelque sorte. Voilà une citation. J'avais déjà trouvé en moi la force de fixer froidement le malheur, d'étouffer mes émotions. Je commençais alors à comprendre la beauté qu'il y a à détruire. Dans un monde qui est en proie à une destruction perpétuelle, par exemple les chantiers de démolition de Prague après la Deuxième Guerre mondiale où l'on démolit pour reconstruire, ou encore la guerre des rats dans les souterrains qui se livrent perpétuellement la guerre pour savoir qui va l'emporter sur l'autre. Anta avoue prendre plaisir à la destruction des papiers et des livres, mais il ne peut le faire de façon inhumaine, insensible. Aussi froidement, dit-il, qu'un bourreau coréen. Alors, il accomplit ce genre d'assassinat, ce massacre des innocents, comme un tendre boucher, c'est encore une citation, comme un créateur et un artiste.
Oui, mais enfin, il ne détruit pas tout. Il y a des livres qu'il sauve et qu'il ramène chez lui.
Oui.
Mais Monique veut peut-être dire quelque chose.
Je voudrais préciser une chose, c'est une destruction, mais pas comme on fait aujourd'hui par excès de livres, c'est une destruction mirée, c'est-à-dire qu'on détruit des livres qui peuvent être opposés au pouvoir. Donc c'est une destruction qui s'oppose aux livres de pensée, d'idéologie,
oui.
Ce qui est très important, parce que pendant les nazis, sous le régime nazi, c'était déjà ça, mais quand il est passé sous le régime soviétique, la destruction a été encore amplifiée. Donc c'est une destruction
ciblée,
très très précise et qui le perturbe d'autant plus que ce sont des livres importants de la grande culture.
Oui, mais quelquefois ça se fait dans le plus grand désordre.
Oui.
Quelquefois il y a une bibliothèque entière qui passe au pilon. Mmh. Mais ce qui est justement ce que vous disiez là qui est amusant, c'est que pendant donc la première période, la période hitlérienne, on détruit les livres qui sont opposés à ce pouvoir, mais ensuite il y a une espèce de jubilation à détruire toute la littérature nazie.
Oui.
Et notamment tous les portraits de Hitler, etc. Oui. Tout ça va passer au pilon. Et là, il le fait avec une jubilation extraordinaire.
Oui. Et donc, je poursuis ce que j'avais dit sur le travail donc de Anta. Avant de pilonner les livres, il sauve ceux qui sont à ses yeux les plus précieux. D'abord, il les met à l'abri dans une caisse tapissée d'images saintes. Puis il les lit, et puis il place un exemplaire dans chaque paquet de papier qu'il a broyé, et il emballe ce paquet dans une reproduction d'œuvre d'art pour l'embellir. Donc il dit, à un moment, et tous, il observe ces paquets, tous resplendissaient, irradiaient de beauté. Et d'autres citations, dans chacun de mes papiers, j'ensevelis une relique, j'arrange un gentil petit nid à ses livres. Ou encore, il n'y a que moi au monde qui sache quel paquet sert de tombe à Goethe, à Schiller, à Hölderlin et à Nietzsche. Et puis, bon, il préserve aussi certains livres et il les entrepose chez lui. Et il se sent alors le dépositaire du feu de l'esprit qu'il diffuse. Et il y a une très belle citation, je trouve, quand il rapporte ses livres dans son cartable. « Je sens brûler en moi une petite flamme, semblable à celle d'un chauffe-eau ou d'un frigidaire à gaz. La veilleuse éternelle que je ranime chaque jour de l'huile des pensées, qu'en travaillant j'ai lu malgré moi dans les livres que j'emporte maintenant chez moi. Ainsi je m'en reviens, semblable à une maison qui brûle, à une écurie en flammes. » Et on peut rapprocher, je crois, ce feu de l'esprit qu'il entretient avec le feu des tziganes qui apparaît deux fois dans le livre, où ceux-ci célèbrent un petit peu grâce au feu, mais alors là, le feu tout à fait réel qu'ils allument et entretiennent, ils célèbrent leur origine nomade, je crois. L'esprit de le, voilà.
Oui, donc ces livres, en fait, une fois compressés, deviennent des sortes d'œuvres en elles-mêmes.
Un prix César.
Voilà, hein, des sortes de compressions à la César.
Parce que dès le début, il dit bien que presser les livres par ces hommes autoritaires ne sert à rien. Parce que le livre en lui-même, même détruit, continue à irradier. Oui.
Et ça, c'est très beau.
Oui, c'est dit dès le départ.
En fait, tout notre livre, là, le livre dont nous parlons, c'est... Enfin, c'est écrit à la gloire de l'écriture et de la lecture et de la littérature en général. Oui. De la philosophie aussi.
Moi, j'ai été assez sensible à l'aspect fable de ce livre. Et la dernière fois, on avait parlé de Vaclav Havel parce que le livre que nous étudions présentait un personnage qui le rencontrait. Et Vaclav Havel insiste beaucoup sur le fait que les écrivains tchèques se sentait investi, quand même, malgré la censure, du devoir d'être un peu les éveilleurs de la nation. Je lis juste un petit passage de Vaclav Havel. Traditionnellement, on attend de nos écrivains quelque chose de plus que d'écrire des livres bons à lire. L'idée que l'écrivain ait la conscience de sa nation est chez nous historiquement justifiée. Les écrivains ont joué pendant des années le rôle des hommes politiques. Le renouveau de la communauté dépendait d'eux. Ils maintenaient la langue vivante, ils encourageaient une prise de conscience nationale, ils étaient les interprètes de la volonté de la nation. Et donc sans doute que chez Rabal, sous l'aspect un peu de farce, parce qu'il y a de la farce dans ce livre, enfin moi j'avoue avoir vraiment bien ri à certains passages, il y a cette envie de transmettre. Oui. Et alors l'aspect fable qui m'apparaît le plus, c'est justement ces deux périodes en quelque sorte qui se suivent dans le livre. Il y a au départ donc le personnage principal qui possède une presse qui est quelque chose d'efficace mais qui est un vieux truc. Et il l'adore d'ailleurs sa presse et il s'est dit que quand il prendrait sa retraite, il tâchera de l'emporter chez lui, de la racheter pour l'emporter chez lui. Mais il y a un deuxième passage et ce deuxième passage, c'est on peut imaginer que ça suit un peu les événements politiques. C'est après quand il y a eu cette reprise en main de l'URSS après le printemps de Prague. Là, la presse qui va exister, c'est pas une presse pilon qui écrase comme la première. C'est une presse beaucoup plus futée, beaucoup plus
efficace
qui est faite pour décérébrer. Parce que la génération de Hatta, c'est une génération qui a lu. Lui-même, il a lu. Tandis que la nouvelle génération, qui est propre sur elle, d'ailleurs, il y a des passages assez extraordinaires dans lesquels il décrit leur tenue et le fait que, au comble de l'horreur, ils boivent du lait et du Coca-Cola.
Oui, non, ils sont habillés comme les conducteurs, les chauffeurs du Formule 1, avec des casques.
Des casquettes, des couleurs, enfin, etc. Et alors, eux n'ont aucun état d'âme, ils ne cherchent pas à sauver des livres. Et je crois que c'est là qu'il y a cette peur, que ces gens qui n'ont pas la culture qui leur permette peut-être d'attendre que les événements s'arrangent, etc., ils sont décérébrés. Et je pense que la deuxième presse, c'est une presse à décérébrer.
Oui, donc c'est le désespoir de ce monsieur Anta qui voit que tout d'un coup, il y a une rivale extraordinaire à sa vieille presse et qui est d'une efficacité absolument extraordinaire, redoutable. Et donc là, il y a un changement, enfin pour lui, il y a un changement de mentalité et il y a une sorte effectivement d'angoisse à l'idée que tout un pan de la culture risque de disparaître. Alors que, comme tu l'as dit, pour les Tchèques en particulier, la culture, c'est vraiment un trésor à préserver et que toutes les classes sociales respectaient énormément.
Je vous lis juste un petit passage, la page 80. Je voyais derrière les parois vitrées des camions, déchargés de pleines cargaisons de livres encore vierges, qui s'en allaient directement à la poubelle, sans qu'une seule de leurs pages ait pu souiller les yeux, le cœur et le cerveau d'un homme. C'est bien ce que voilà. Tu disais, Monique. Il faut que les vaches socialistes soient bien gardées.
Dans la première partie où il est maître absolu de sa presse, en réalité, parce qu'il a un patron qui vient le voir et qui est désespéré, ce patron, parce que l'autre n'avance pas assez vite. Il sait bien qu'il prend son temps. D'ailleurs, Anta, pendant 35 ans, probablement, a fait son travail avec... délectation, on peut dire. Il avait le temps de prendre un livre, de le choisir, de le mettre dans son sac. Un par jour, il l'emportait à la maison. Mais après, la pression du patron s'accélère, mais lui est toujours tranquille. Sauf que quand il va voir la nouvelle presse et qu'il voit ses ouvriers qui sont envoyés sur sa presse et qu'en un jour, à deux, ils font le travail de Anta qu'il fait en une semaine ou un mois... Alors là, il est désespéré, il est détruit, et le patron lui dit « tu vas aller balayer la cour ». Et à ce moment-là, au point de vue des choses très drôles, il parle de son patron qui, lui, avait un plaisir énorme à peser ses ouvrières.
Ses ouvrières.
Et voir « tu as baissé, tu as le même poids, tu as grossi, tu as maigri ». Et à la fin, comme plaisir, il mettait sa tête, je parle du patron, dans les seins de l'ouvrière. Donc c'est un personnage aussi truculent, un des temps, enfin, des nombreux personnages qui sont extraordinaires.
Et qui montre en même temps à quel point il y a le poids de ces petits chefs, qui, comme les rats de la cave là, qui se battent, doivent être du parti du plus fort à tour de rôle et imposer leur autorité.
Et lorsque Anta visite la nouvelle usine, donc l'usine avec la presse gigantesque, il y a une séquence qui fait froid dans le dos, c'est quand les petits enfants sont amenés en après-midi pédagogique pour apprendre eux-mêmes à enlever la couverture des livres, aider à la destruction. Là, c'est le desservelage assuré.
Oui, donc là, on peut comprendre sans doute qu'il y a une critique d'un certain système et d'une certaine éducation.
Il y a aussi quelque chose qui était intéressant, c'était l'attitude du héros de l'histoire vis-à-vis des Tziganes. Qui n'est pas du tout dans le genre l'état d'esprit des Tchèques. Tu disais, Jean, que les Tchèques n'aimaient pas les Tziganes.
Les Tchèques et les Slovaques. En fait, d'une manière générale, en Europe centrale, les Tziganes sont très très mal vus. Ils sont chargés de tous les péchés, ils sont mis à part, ils sont très différents, bien sûr, physiquement. Et donc, il y a vraiment une sorte de racisme. Et donc, dans le livre... C'est ce que je trouve vraiment la part vraiment humaine de la balle, ce sentiment de tendresse pour les plus humbles et ceux qui sont les plus maltraités aussi. Et donc il y a le personnage, un personnage d'une petite zigane qui est bouleversant.
On va peut-être
On sait ce que sont devenus les tziganes à l'époque nazie.
Oui, on va peut-être écouter de la musique tzigane pour se faire pardonner.
Peut-être. Thank you.
acela, Obamara sa se acela, devla devla vacharle, Obamaru koka ochinele, Romalen ajunen, hey chavoren google, duralen, Obamara chayo.
On peut revenir sur cet aspect humain, soucieux de tendresse vis-à-vis des plus humbles dans le livre, et je pense que c'est typique aussi de Rabal lui-même. Et on a parlé donc de la petite cigane, et il y a un autre passage, moi, qui me paraît aussi très symbolique, c'est quand il presse donc ses livres, il y a des souris, et il y en a une de ces petites souris qui ose se dresser face à lui, et qui se montre absolument révoltée, se montre très combative. Et il est touché par le mouvement de cette petite souris, et il en conclut l'amour est la loi la plus haute, et pas donc la destruction, etc.
Et tu disais qu'il était très sensible au petit peuple, enfin aux gens d'une manière générale. Et Vaclav Havel, tout jeune, avait écrit un ouvrage de critique sur Rabal, et il disait de lui « Il fait partie des écrivains qui ne vivent pas pour écrire, mais qui écrivent parce qu'ils vivent. Il est passionné par l'infinie complexité de la vie des gens ordinaires, par le va-et-vient constant entre situations tragiques et grotesques. » Donc c'est vraiment ça. Dans le livre, il y a des situations tragiques et des situations grotesques en permanence.
Voilà. Je pense que ça aussi, enfin je l'ai déjà dit, mais c'est typique de l'esprit tchèque et de la littérature tchèque. C'est-à-dire que il y a à la fois cette confrontation avec des situations terribles, tragiques, et en même temps l'humour noir. Mm. Et c'est Rabal lui-même qui dit que il a une prédilection pour les films de Serkiton ou de Charlot, hein, dans lesquels il y a ce mélange, justement. Mmh.
Et le moment le plus extraordinaire que j'ai trouvé en humour noir, c'est lors de l'enterrement de sa mère. Oui. Sa mère décède, elle est donc incinérée. Et il voit sa maman s'élever au-dessus avec la fumée. Et il revient chez lui avec le vase et les cendres. Et il va déposer ce vase chez son oncle qui a un jardin. Et l'oncle prend le vase, le soupèse, il dit « Ma petite sœur a perdu 50 grammes de matière. » Il restait que les cendres. Et il est très étonné que l'oncle soit capable d'évaluer le poids de cendres de sa mère. Et l'oncle met le vase de côté. Et puis un jour, il bine ses navets et dit « Ah, ma sœur aimait tellement les navets. » Il va prendre le vase de cendres, il les répand sur les navets. Et ensuite, ils ont mangé des navets excellents.
Voilà, donc il y a ce mélange, effectivement, de grotesque et de tragique.
Et il y a même du scato.
Et aussi scatologique, on pourrait en parler.
Et aussi, quand il voit les jeunes, ceux qui vont prendre sa place, boire du lait et du Coca-Cola, ça le tue, comme on dirait les jeunes. Il dit, mais seulement s'ils savaient que même une vache qui meurt de soif jamais ne boira son lait.
Oui.
Mais en même temps, ce lait qu'ils boivent là et ce Coca-Cola qu'ils boivent, c'est quand même le symbole que ce sont des jeunes qui invulnérables en quelque sorte, qui se sentent irréprochables. Eux, ils ne boivent pas de bière. Ils ne font pas ce qu'il appelle le grand slalom. Le grand slalom qui consiste à aller de bar en bar et quelquefois on n'arrive pas à la dernière porte.
Oui.
Mais tandis que justement, notre héros, c'est quelqu'un qui sait qu'il boit trop, etc. et qui peut être à cause de ça, parce qu'il a des choses à se pardonner, on pardonne beaucoup aux autres.
Oui.
Donc,
cette nouvelle jeunesse-là, d'ailleurs, c'est un groupe, hein, c'est jamais des individus, c'est un groupe, c'est la brigade socialiste du travail, et ils veulent donner l'impression de gens très sains, tournés vers l'avenir,
dynamiques. La façon dont ils
dynamique.
Les décrit fait penser d'ailleurs à ces affiches de propagande soviétique, ou ces statues de Stakhanov,
voir la critique implicite, bien sûr, qui n'a pas plu, ce qui pouvait ne pas plaire au régime en place.
Mais je crois qu'on pourrait aussi actualiser et dire que le propos est valable pour notre époque où les livres, la place faite aux livres, s'amenuise et pourrait disparaître.
Oui.
Oui, je sais pas, je suis pas aussi pessimiste, moi, Françoise.
Non. Je voudrais revenir sur les allégories que tu as citées, Jeannette, parce qu'évidemment, il y a l'allégorie du système, la répression du système totalitaire avec l'idée de la presse. Il y a également l'idée de la guerre qu'il a mis en scène avec la guerre des rats dans les égouts.
Des rats et des surmulots.
Où il prétend qu'il y a des guerres perpétuelles dans les égouts et qu'il y a toujours une bande qui gagne sur l'autre, comme dans la vie. Bon. Et puis alors, il y a au système, l'allégorie du système des barrières, des définitions. Alors, il pense aux juifs, je ne sais pas lesquels.
C'est les juifs des Ashkénazes.
Vêtements, mais ils ont une grande ceinture qui distingue le bas de leur corps, la partie viscère, tripe un peu sale,
sexe.
Avec le haut, la tête et le cœur. Et ça, après, il dit chez les catholiques, barrière est mise beaucoup plus haute parce que c'est le col blanc.
C'est le col romain.
Il y avait une chose très jolie, il avait remarqué ça quand des petits garçons baissent leurs culottes avec un élastique à l'époque et ils regardaient très étonnés la marque qu'ils avaient sur leur petit ventre. Le système des barrières est assez, dans le corps, est assez drôle et pertinent.
Oui, donc ça, c'est un bon exemple des espèces de digressions qu'il y a dans le livre.
Qui sont nombreuses,
On pourrait parler aussi d'une galerie de personnages, de portraits très pittoresques, un peu hors du temps, hors de l'époque, enfin un peu décalé. Il y a notamment
un
sacristain qui collectionne les livres sur l'aviation. Et il y a aussi un personnage un peu perdu, une espèce de philosophe qui parcourt les rues et qui répète des phrases un peu étranges.
Et qui lui cherche des vieux journaux.
Oui.
Voilà.
Oui, mais en réalité, pendant ces 35 ans, il n'a qu'une personne qui lui demande les livres. Les livres qu'il sauve, il les garde chez lui. Mais apparemment, le reste de la population ou de ses amis ou de ses connaissances, le reste n'est pas très attiré par la possibilité récupérer.
On n'ose pas, parce que quand même, voler des livres, enfin, je veux dire sauver des livres, ça devait être quelque chose de passible de quelques ennuis. Enfin, je pense. Hein. Oui. Non, alors il y avait une dernière chose, toujours dans les allégories ou bien dans les coups de griffe, comme ça en passant au régime, pas seulement le sien, mais je pensais à Mao Tse-Tung, parce qu'à un moment donné, il dit... Ce que j'aimais le mieux, c'était d'aller voir dans leur cave, les copains du chauffage central, des gars d'instruction supérieure. C'est là que j'appris que le quart-monde se dépeuplait. Les ouvriers de la base faisaient des études et les universitaires prenaient leur place. Oui. Et alors, ce sont deux académiciens qui s'occupent des égouts et qui remarquent, ça fait partie des choses truculentes, que les égouts du week-end ne sont pas les mêmes que les égouts de la semaine. Le week-end, on sent qu'il y a eu quelques parties de jambes en l'air dans les familles et on trouve beaucoup de préservatifs, pas les autres jours.
Oui, bon, ça fait partie des remarques, on pourrait dire, rabelaisiennes du livre, et qui sont d'un comique très franc.
Oui, d'autant qu'il avait été interdit d'écriture, enfin de publication, pour grossièreté et pornographie. Et la grossièreté dans ses livres, on peut penser à son premier amour, Marinette, enfin sa fiancée, qui devient la risée de tout le monde. Elle était très belle, mais elle lâche des estrons. Et tout le monde rit. Donc le caca, la merde, n'arrête pas de foisonner dans ce livre. Alors peut-être était-ce une des raisons pour lesquelles
il avait été censuré par les buveurs de Coca-Cola.
C'était finalement une fausse raison. Il y avait une raison beaucoup plus profonde, sûrement. Donc Jeannette, tu voudrais faire une citation?
Non, mais voilà, on est obligé de s'arrêter. Mais enfin, on ne peut que vous conseiller la lecture de ce livre, parce qu'on l'a lu et relu, et plus on le lit, plus on le trouve formidable. Mais j'ai quelques annonces à faire.
Je vais donner une précision. Ce livre est devenu un film. Un film avec comme personnage principal, donc Philippe Noiret. Mmh. Et il y a un autre film qui a été tiré d'un livre de Laballe, qui est un très beau film, qui s'intitule « Train étroitement surveillé », qui a été projeté dans une période de l'histoire de la Tchécoslovaquie où il y a eu une sorte de première liberté, c'est-à-dire à la fin des années 60, entre les années 60 et... Enfin, à la fin des années 60. Mmh. Il y a eu tout d'un coup là un vent de liberté qui est visible dans un certain cinéma tchèque, par exemple Forman aussi, qui est devenu très célèbre.
Oui. Alors donc moi les annonces que je veux faire, c'est d'abord le prochain livre qu'on a choisi pour le mois prochain, qui est celui d'un écrivain qui vient à Lettres d'automne, Éric Vuillard. Alors on avait un peu l'embarras du choix, mais finalement on a pris 14 juillet. Voilà, donc c'est de ça qu'on parlera la fois prochaine. Autrement, je voudrais vous indiquer deux rendez-vous du mois d'octobre de Confluence. D'abord, le 6 octobre, au cinéma La Muse à Bressols, une BD-concert. Alors, c'est en coproduction avec le Rio, avec le cinéma Eidos et Confluence. Et alors, c'est d'après la BD d'Alfred, Splendor in the Grass, pardon pour mon accent anglais. Et alors, l'ouverture des portes se fera à 20h, mais le concert commencera à 20h45, donc à la Muse à Bressols, 6 octobre. Le 25 octobre, comme toujours pendant les vacances, il y aura à la Petite Comédie, organisée par Confluence, un atelier d'illustration animé par Claire Garalon, qui partira de ses derniers albums et qui est destiné à tout public à partir de 6 ans. Alors, c'est un atelier forme, découpage, collage. Voilà.
Il y avait peut-être une question qu'on ne s'est pas posée, c'est comment comprenez-vous le titre de ce livre ? Une trop bruyante solitude, c'est une formule un peu énigmatique.
Oui, moi j'ai pensé que le problème, enfin le poids, était sur le trop. Tout devient l'adverbe trop, qui explique en fait la fin du livre. Vous pouvez réussir, la trop, ça veut dire qu'il ne pouvait plus supporter cette solitude. Le titre aurait pu être...
L'idée de l'écrasement, donc.
Oui. Mmh. ça pouvait être la bruyante solitude, une bruyante solitude, mais là, trop.
Et pourquoi bruyante? C'est parce que, en fait, les livres lui parlent. Je pense aussi.
Et est-ce que c'est pas simplement le bruit de la presse?
Et la presse fait du bruit.
Peut-être aussi.
Mais moi, je dois dire que j'ai buté sur le titre. Oui, je suis d'accord. Je suis contente de ton interprétation. J'avais rien trouvé.
Voilà, bien, donc on vous souhaite de prendre plaisir aussi à la lecture de ce livre et on dit à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. On met un coup de...